Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes maintenant au chapitre 15 de Saint Jean. Un chapitre assez court, qui ne comporte que 27 versets. Notre Seigneur Jésus-Christ continue de s'épancher auprès de ses apôtres. Ce sont les derniers conseils de notre Seigneur à ses apôtres avant la Passion, donc ils ont une importance toute particulière. Donc sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15, nous en sommes à la page 35, en haut de la page. Commençons par les trois premiers versets, versets 1, 2 et 3 du chapitre 15 de Saint Jean. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit, l'amendera afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc notre Seigneur dit souvent ces comparaisons avec des choses très connues des apôtres. Il va dire par exemple, je suis le sel de la terre, je suis la porte. Je suis la voie, la vérité, la vie. Il utilise des choses, des mots très connus. Ici, il va se comparer à la vigne. Il va comparer les apôtres aux serments qui doivent être réunis au cep. Un serment, qui n'est pas réuni au cep, qui ne reçoit pas sa sève du cep, va se dessécher, va mourir, et quoi qu'il en soit, sera incapable de porter du fruit. Par contre, pour que le serment puisse porter du fruit, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il soit évidemment réunis au cep. Et la deuxième condition, c'est le verset 2, il faut qu'il soit taillé, il faut émonder le sarment. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le retranchera, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émondera afin qu'il porte plus de fruits. Donc il faut tailler dans la masse. Et cela représente évidemment la mortification de la volonté propre. Notre Seigneur Jésus-Christ va demander à ses disciples, à ses apôtres et à tous ceux qui sont hantés sur ce cep de donner du fruit. Et pour qu'ils donnent encore plus de fruits, il va les faire passer par des épreuves. La nuit des sens, la nuit de l'esprit, pour les faire monter de la vie purgative à la vie illuminative, à la vie unitive. Voyez un petit peu ce que disent les Pères de l'Église sur le sujet. Donc nous en sommes à la page 35. Le Sauveur parle ici comme étant le chef de l'Église dont nous sommes les membres, comme le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. En effet, les branches de la vigne sont de même nature que la tige, mais elles doivent être réunies pour pouvoir au cep pour pouvoir recevoir de la sève. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ ici parle dans son humanité. Il donne des comparaisons qui sont plus facilement compréhensibles pour les pauvres pécheurs que nous sommes tous, parce qu'il nous montre l'exemple de son humanité. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est beaucoup plus accessible que sa divinité. C'est pour cela d'ailleurs qu'il va montrer qu'il est Dieu, entre autres en remplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament le concernant, également en faisant des miracles, mais son humanité est plus facilement visible, plus facilement accessible. Lorsqu'on voit notre Seigneur Jésus-Christ souffrir sur la croix, on comprend qu'il est homme. Et lorsqu'on l'entend parler avec des mots tout simples, il se compare à la vraie vigne, il montre vraiment son humanité. Mais derrière cette humanité, il y a la divinité qui est cachée. Les branches de la vigne sont de même nature que la tige. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la vraie vigne », a-t-il ajouté le mot « vrai » par opposition à la vigne qu'il prend ici pour terme de comparaison. Non, il faut d'orthographe, il faut que je corrige maintenant. I majuscule. Car on lui donne le nom de vigne dans un sens figuré et non littéral, de même qu'on lui donne le nom d'agneau, les noms d'agneau, de brebis et d'autres encore, où la réalité extérieure existe bien plutôt dans les choses qui sont prises comme objet de comparaison. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ se compare à la vigne? Bon, on va voir avec les pères, mais je pense que le point essentiel, c'est que les sarments vont porter du fruit, et le fruit de la vigne, c'est la grappe. Et la grappe, non seulement le sarment va être émondé, taillé, avant qu'il donne du fruit, mais une fois que le fruit arrive, il va falloir écraser ce fruit. Ce fruit qui est écrasé représente la passion. C'est pour cela, disent les pères, que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu passer ses dernières heures sur la terre au jardin des Oliviers, à Gethsémani, où il y avait un pressoir. Bon, ce n'était pas un pressoir vraisemblablement pour la vigne, c'était un pressoir à olives. Mais l'idée du pressoir est là. La vigne va donner des grappes de raisin, et ces grappes ne vont pouvoir fermenter, donner du vin qui va réchauffer le cœur de l'homme, que s'il est écrasé, broyé sous les pieds des vignerons. Eh bien, ce broyage représente la passion. Et le vin qui est capiteux, qui va, par sa fermentation, aider l'homme, donner une joie de vivre à l'homme, représente la grâce sanctifiante. Donc, c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ se compare à la vraie vigne. En disant « Je suis la vraie vigne », il a voulu se séparer de cette vigne à laquelle Dieu dit par son prophète « Comment vous êtes-vous changé en amertume aux vignes étrangères ? Et comment serait-elle la vraie vigne, elle qui, au lieu de fruits qu'on attendait, n'a produit que des épines ?» Donc notre Seigneur Jésus-Christ est en droit d'exiger de ces sarments que nous sommes, nous, de donner du bon fruit, une belle grappe qui va pouvoir être foulée et donner du bon vin. Si à la place d'une belle grappe, notre Seigneur ne trouve sur les sarments que des petits grappillons amers, ces grappillons amers sont incapables de donner du bon vin. Et donc, ils ne vont même pas être foulés, ils vont être jetés au loin, jetés au feu avec les sarments qui se séparent de la vigne. Donc, nous avons le devoir de rendre à Dieu ce qui lui appartient. C'est la vertu de justice, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes. Et cette vertu de justice, justement, va trancher dans le vif pour aider les apôtres à donner plus de fruits. Il parle ici donc des tribulations qui attendaient les apôtres. Il leur enseigne que les épreuves les rendront plus forts et plus vigoureux, de même qu'on rend la branche de la vigne plus féconde en la taillant et en l'émondant. Sans tailler la vigne, sans l'émonder, on ne peut pas obtenir des belles grappes. On va obtenir des petits grappillons sans aucun intérêt. Et donc le taillage de la vigne, l'émondation, je ne sais pas si c'est le mot français, le fait d'émonder la vigne est un symbole des purifications par lesquelles nous devons passer pour monter vers le calvaire. Quand on monte vers le calvaire, il faut laisser au pied du calvaire sa volonté propre, sinon on ne peut rien obtenir. On peut se demander donc pourquoi le Christ se compare-t-il à une vigne plutôt qu'à un pommier, un noyer ou un autre arbre. Et saint Athanase explique que c'est à cause des nombreuses qualités de la vigne qui excellent parmi les autres arbres, et ces qualités représentent parfaitement le Christ, surtout dans son humanité. Nous allons voir ça, là, il y a des exemples magnifiques des pères de l'Église. Ici, c'est surtout saint Athanase. Premier point, la vigne donne un fruit abondant, étant la plus féconde de toutes les plantes, et son fruit, avec une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige, je peux m'excuser, et son fruit est le plus doux. Votre épouse sera comme une vigne fertile. Donc Dieu attend un fruit abondant. Rappelez-vous la parabole des talents. Lorsqu'il donne un certain nombre de talents à un de ses serviteurs, il exige que ces talents portent du fruit. Et pour qu'ils portent du fruit, eh bien, la volonté propre du porteur de talent va être émondée, cette volonté propre va être taillée, va être purifiée pour qu'il donne davantage de fruits. Et l'abondance du fruit de la vigne, le nombre des grains de raisin est très important, est important sur une grappe, la grosseur de ces grains, rend le fruit de la vigne très visible, eh bien, cela représente justement l'abondance du fruit de la grâce sanctifiante dans les âmes. C'est vrai qu'il a pris l'exemple de la vigne, il aurait pu prendre l'exemple du blé, qui donne peut-être encore plus de grains, mais les grains de blé sont tout petits, ils ne se voient pas, tandis que là, la vigne donne un fruit de couleur qui est largement visible, avec des grains de raisin qui peuvent être assez gros, qui donc représentent plus facilement le fruit de la grâce divine. Deuxième point, la vin est fait à partir de son fruit qui rend heureux le cœur des hommes, et produit des effets semblables à ceux produits par la venue du Christ. Donc, j'ai déjà expliqué, ce vin qui réjouit le cœur des hommes représente la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante qui va mettre cette joie communicatif dans le cœur des hommes. Un saint triste est un triste saint. Au contraire, un vrai saint, quelqu'un de joyeux. C'est très important, surtout par les temps qui comptent, les temps qui courent aujourd'hui. On le voit, c'est une chose qui me frappe énormément dans le monde moderne, la tristesse du monde moderne. Les gens modernes sont tristes comme des balais. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas hantés sur le cep. Ils sont des sarments qui sont coupés du cep, donc ils ne reçoivent du cep aucune sève. Ne recevant aucune sève du cep, eh bien évidemment, ils ne peuvent pas porter de fruits. Et ne pouvant porter de fruits, eh bien le maître va d'abord essayer de les tailler pour qu'ils donnent du fruit. Mais s'il voit qu'il n'y a rien qui sort de ces sarments, parce que finalement ils ne sont même pas unis au cep, parce qu'ils ont été coupés et séparés du cep, eh bien, le maître de la vigne va prendre le serment, le couper complètement, le détacher du cep et le jeter au feu. Troisième point, cette vigne se diffuse largement par ses branches et représente l'extraordinaire extension de l'Église. Elle étendit ses branches dans la mer et ses bourgeons dans la rivière, psaume 80. Donc, cette vigne qui va s'étaler, c'est pour ça qu'on met des supports, des fils de fer qui vont supporter les branches de vigne, pour que le poids des grappes ne casse point les sarments, eh bien cette vigne qui s'étale en longueur sur les supports, j'ignore le nom technique de ces supports, eh bien cette vigne qui s'étale, qui se diffuse largement, représente l'Église qui va en quelque sorte s'étendre pour pouvoir couvrir de son manteau tous les hommes dans toutes les parties du monde. Quatrième point, la vigne a des fleurs très odoriférantes et des feuilles très larges qui donnent de l'ombre aux autres plantes. Les feuilles du Christ sont les grâces extérieures de prédication et de conversion. Donc les feuilles vont protéger les autres plantes qui vont pouvoir trouver refuge sous ces feuilles. Et la bonne odeur de la vigne, des fleurs de vigne, comme disent les pères, une odeur très odoriférante, donc cette bonne odeur représente précisément la bonne odeur du chrétien qui vit en état de grâce. Le chrétien qui vit en état de grâce doit sentir le Christ. Il doit avoir une bonne odeur qui sort du chrétien en état de grâce parce qu'il est un enfant de lumière. Alors qu'au contraire, lorsque les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ ont tout abandonné et vivent dans les ténèbres, un enfant des ténèbres ne peut pas porter ce fruit de la grâce sanctifiante, cette odeur de la grâce sanctifiante, parce qu'il l'a perdue. Et donc, il va porter en lui l'odeur désagréable du prince des ténèbres, qui est le démon lui-même. Autre point, le vin qui provient des vieilles vignes est le meilleur, mais celui qui vient des vignes récentes est le plus abondant. Certaines vignes peuvent vivre plus de 200 ans. Le goût du miel sauvage, il n'y a pas d'arbre qui est un bois plus durable. Donc, ces vieilles vignes, donc, qui sont beaucoup plus solides que les autres, parce que le bois a vieilli, ces vieilles vignes représentent la longévité de l'Église, l'Église catholique, qui existe depuis notre Seigneur Jésus-Christ, à 2000 ans d'âge, et bien qu'elle soit si vieille, si ancienne, elle va continuer de donner du fruit, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire de la grâce sanctifiante. Autre point, la vigne réclame des soins assidus. Il faut creuser la terre, planter, drainer, soigner, tailler. De même, l'Église et les saintes âmes greffées sur le Christ, qui est la vigne, demandent un soin important et constant. On n'obtient pas du bon fruit, des bonnes grappes de raisin, sans travailler énormément la vigne. Quand j'ai À un moment, j'ai habité à Sainte-Croix-du-Mont, dans la Gironde, en terre de vin de 27 régions. Il y a beaucoup de vin là-bas, du vin blanc, du vin rouge. Et j'ai vu, juste sous la maison où j'habitais, il y avait des rangées de ceps de vigne. Et on voit très bien, je voyais le travail que réclamait cette vigne. On voyait toute la journée les gens travailler sur cette vigne pour que cette vigne puisse donner du fruit. Eh bien, c'est la même chose pour une âme. Les âmes doivent être travaillées, doivent être soignées. Je vais fermer ma porte parce qu'il y a un bruit dehors qui gêne pour l'enregistrement. Je vais fermer ma fenêtre. Voilà, donc, même si la vigne de l'Église est vieille, elle continue de donner du fruit par l'intermédiaire des fidèles. Et plus les fidèles sont depuis longtemps dans cette Église, plus ils peuvent donner du fruit en fonction des grâces qu'ils ont reçues. Encore une fois, reprenez la parabole des talents. La parabole des talents qui explique bien que ceux qui ont beaucoup reçu, qui ont reçu une dizaine de talents, doivent donner le double. Elle représente justement ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps. C'est pas toujours vrai d'ailleurs. J'ai remarqué, je vois ici souvent, que parfois les nouveaux convertis ont plus de zèle que des gens qui sont catholiques depuis la naissance, depuis le baptême, comme bébé. Je suis assez impressionné par ces nouveaux catholiques qui ont trouvé la foi catholique autour de 25 ou 30 ans, qui ont été baptisés sur le tard et qui ont un zèle pastoral, un zèle apostolique qui fait vraiment plaisir et que j'aurais bien aimé pouvoir voir de la même façon, au même degré, chez les catholiques qui sont catholiques depuis qu'ils sont tout petits. Autre point, toujours texte de saint Athanase, les grappes pressées, transformées en vin, représentent fort bien la passion et la mort du Christ sur la croix, pressées par le pressoir qui va en faire sortir le sang qui rachète le monde. Il attache à la vigne son anon, au cep le petit de son ânesse, son manteau dans le sang de la grappe, ses yeux sont plus beaux que la vigne. Vous voyez, c'est pas pour rien que la matière du sacrement de la deuxième consécration, donc la matière du sacrement de la Sainte Eucharistie, il y a le pain, évidemment, pour l'hostie, mais pour le contenu du calice, le bon Dieu a voulu prendre comme matière le jus de la vigne, donc le vin fermenté, vous voyez, pour bien montrer justement le rapport qu'il y a entre ce jus fermenté qui ne peut pas fermenter s'il n'a pas été broyé, écrasé sous les pieds, pendant une longue période de temps, sous les pieds des vignerons, avant de donner toute la ferveur, si vous voulez, de son odeur. De la même façon, un catholique ne peut pas donner beaucoup s'il n'est pas passé par la tribulation. Tout catholique qui vit dignement va passer par la tribulation. On ne peut pas se sauver sans tribulation. Toute personne qui vit dignement, toute personne qui aime notre Seigneur Jésus-Christ va passer par la tribulation, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous voulez me suivre, prenez ma croix, renoncez-vous à vous-même, prenez ma croix et suivez-moi. Alors, Saint Bernard dit que, en analysant le texte Je suis la vraie vigne, donc au verset 1, dit, la vigne ne se reproduit pas par semence, mais par repiquage. Le Christ est la vigne engendrée par la vigne comme il est Dieu né de Dieu, Fils du Père, lumière née de la lumière, Fils du Père, Dieu né de Dieu. Et pour qu'il puisse donner plus de fruits, il fut planté dans la terre, né de la Vierge Marie. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, a été hanté dans le sein très pur de la Sainte Vierge Marie, le 25 mars, fête de l'Annonciation, et par cette union de sa divinité avec l'humanité de la Sainte Vierge Marie, il va pouvoir préparer le grand mystère de la rédemption. Donc la gloire du Christ fut détruite par le couteau de l'ignominie, son pouvoir par le couteau de l'humiliation, son plaisir par le couteau de la peine, et ses richesses par le couteau de la pauvreté. Oui, on voit tous ces détails, l'ignominie, l'humiliation, la peine, la pauvreté, qui sont des points par lesquels tous les catholiques doivent passer pour pouvoir donner un bon jus qui va pouvoir fermenter et donner un bon vin. Alors, d'autres symboles, à page 36, en haut de la page. Les lianes de la vigne représentent les cordes avec lesquelles le Christ fut lié quand il fut flagellé au pilier. Il symbolise également la couronne d'épines qui lia sa tête et les clous de fer qui le fixèrent à la croix. La large feuille de la vigne nous protège de son ombre pendant les temps de la tentation. On a déjà vu des textes similaires juste avant. Alors, comprenons bien ces textes, de même que, si vous voulez, la vigne va pouvoir donner du fruit à condition qu'elle soit fixée aux liens, par des liens sur les cordes, si vous voulez, sur les fils de fer qui permettent à cette vigne d'étendre ses rameaux. Et ces liens représentent la mortification, évidemment, de la volonté propre, de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, les clous de fer empêchaient notre Seigneur Jésus-Christ de s'éloigner de la croix. Et donc, c'est un symbole de la mortification de la volonté propre pour se mettre dans la volonté divine. Alors, la couronne d'épines, les clous, tous ces détails de la passion sont représentés par le fait que la vigne va donner du fruit dans la mesure où elle est fixée sur ces fils qui permettent à ces branches, à ces sarments, de prendre de la puissance en largeur et pour mieux prendre le soleil. Le Seigneur a propagé ses branches de la foi et de l'Église à travers le monde et partout il produisit des grappes, des troupes de martyrs, de vierges, de confesseurs et de saints. Quelle prospérité, quelle beauté que la leur! Le froment fera croître les jeunes gens et le vin nouveau les vierges. La branche fertile est purifiée car elle est taillée par la discipline pour être menée vers une grâce encore plus riche. Et sans ce fait qu'elle est taillée, qu'elle est émondée, le couteau, si vous voulez, va passer sur la vigne pour qu'elle puisse donner du fruit, eh bien cela représente déjà la passion. Plusieurs éléments dans la culture de la vigne qui représentent la passion. Donc c'est pour cela que le fruit de la vigne doit passer par un broyage complet, systématique, pour pouvoir donner le vin. Et sans passer par ce broyage, on ne peut pas obtenir la grâce sanctifiante. Et bien ce broyage, c'est quoi? C'est la mortification, encore une fois, de la volonté propre. Le Christ exige donc des fruits, et s'il n'en trouve pas, il menace chaque sarment de vigne, chaque chrétien, d'être coupé de la vigne par la damnation éternelle. Les hommes parfaits ont, comme les autres, l'obligation de faire des bonnes œuvres. C'est ce que signifient les mots « en moi ». C'est une disgrâce pour le croyant de ne pas apporter les fruits de la charité et des autres vertus à cause de sa paresse. Donc Dieu exige des fruits en fonction des grâces qu'il a données à cette personne. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Oui. Nemodat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc il faut se remplir du Christ pour pouvoir transmettre le Christ aux autres dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout l'esprit apostolique de l'Église. Et ces bonnes œuvres ne seront possibles pour nous, encore une fois, que si nous acceptons d'être émondés, taillés par le maître de la vigne. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, formule de saint Paul, qui atteint la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Cette doctrine qu'il faut croire et à laquelle nous devons obéir est la serpe qui vous a purifié de l'erreur et des péchés et vous a rendu pur, saint et plaisant à Dieu. Tant que mon âme est remplie de ma volonté propre, je ne peux pas écouter notre Seigneur, c'est absolument impossible. Et si au moment où je me suis vidé de ma volonté propre et je suis capable de dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite et pas la mienne, à ce moment-là, le bon Dieu peut vraiment rentrer dans la maison et faire de nous ce qu'il veut. Avançons avec les versets 4 à 7 du chapitre 15 de Saint Jean. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, il séchera. Puis on le ramassera, on le jettera au feu et il brûlera. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez alors tout ce que vous voudrez et tout cela vous sera accordé. C'est dans ce passage qu'on a cette phrase, qui est certainement une des plus importantes de l'Écriture sainte, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sine me nihil potestis facere. » Ce Seigneur ne dit pas « Sans moi, vous aurez du mal. » Il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Mais ça veut aussi dire qu'avec la grâce du bon Dieu, on peut tout faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire avec moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous pouvez tout faire, pardon. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut aussi dire avec moi, avec ma grâce, vous pourrez tout faire. Parce que ma grâce va agir de façon divine dans votre âme. On le voit très bien par les prophètes. Les prophètes sont un parfait symbole de cette volonté de s'effacer pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse prendre le contrôle de notre âme. Les prophètes ne prophétisaient pas ce qu'ils voulaient. Ils prophétisaient ce que Dieu leur mettait dans le cœur pour qu'ils le transmettent à tous les fidèles. Donc de même que la branche ne peut porter de fruits si elle ne demeure unie à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc c'est dans la mesure où on est hanté sur notre Seigneur Jésus-Christ qu'on va pouvoir avoir dans nos veines la grâce du bon Dieu et la transmettre à ceux dont nous avons la charge. Quel magnifique éloge de la grâce, disent les pères, comme il est propre à instruire les cœurs des humbles et à fermer la bouche des superbes. N'est-ce pas contredire cette vérité que de ne pas croire à la nécessité d'un secours divin pour faire le bien? Et ceux qui sont dans cette erreur, que font-ils? Loin d'affirmer et de défendre le libre arbitre, ils ne font que le ruiner. Donc, le bon Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est œuvrer par nous. Et pour pouvoir utiliser sa grâce dans notre âme, il faut que la porte de notre âme soit grande ouverte. Encore une fois, si je ne suis pas là où mon devoir d'État m'appelle, eh bien je ne peux rien faire. Regardez les vierges folles, elles n'étaient pas devant la maison à attendre l'arrivée du maître. Et elles ont dû aller au magasin pour chercher de l'huile parce qu'elles n'avaient pas pris la précaution de s'alimenter en huile avant le début de la nuit. Eh bien, le maître va venir alors qu'elles ne sont pas là. C'est la même chose pour nous. Si je ne suis pas prêt, le bon Dieu va venir quand je ne suis, suis pas là. Et alors là, j'aurai des comptes à rendre au fait que je n'étais pas là pour faire ce que le bon Dieu voulait que je fasse. Celui qui s'imagine pouvoir porter du fruit par lui-même n'est pas uni à la vigne. Celui qui n'est pas dans la vigne n'est pas dans Jésus-Christ. Et celui qui n'est pas dans Jésus-Christ n'est pas chrétien. Or, cette vigne, c'est l'Église. Donc, celui qui n'est pas dans l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, hors de laquelle il n'y a pas de salut, cette personne ne peut pas être sauvée. C'est absolument impossible. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un demeure en moi, par la foi, l'obéissance, la persévérance, et moi en lui, par les lumières que je répands dans son âme, par ma grâce et le don de persévérance, celui-là, à l'exclusion de tout autre, portera beaucoup de fruits. Donc, je vais pouvoir donner du fruit à condition que je demeure en notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, l'obéissance et la persévérance. Et à la condition que la grâce de Dieu puisse travailler en moi. Donc, je dois non seulement ouvrir la porte de mon âme toute grande ouverte pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y pénétrer, mais je dois également m'arranger pour que le chemin d'accès à la porte de mon âme soit dégagé. Si le bon Dieu qui veut rentrer dans ma maison est obligé de passer par un champ de ronces de 3 mètres de haut, comment voulez-vous qu'il accède à la porte de la maison ? Dieu ne fait pas des miracles sans raison. Donc il va exiger non seulement que la maison soit propre à l'intérieur, il va exiger aussi l'ordre dans l'extérieur, dans le jardin autour de la maison. Il va exiger que l'allée qui mène à la porte d'entrée soit dégagée pour que le maître puisse venir à l'heure qu'il a choisie, peut-être en pleine nuit, pour pouvoir rentrer dans la maison facilement, ouvrir la porte, rentrer dans la maison et diffuser toutes les grâces qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Celui qui ne demeure pas en moi sera jeté comme le sarment. C'est-à-dire qu'il n'aura aucune part au soin du vigneron, il séchera. C'est-à-dire qu'il perdra le peu de sève qu'il avait reçu de la racine et qu'il sera privé de tout secours de la vie et on le ramassera. Il y a plusieurs étapes. Première étape, le sarment va sécher. Deuxième étape, le sarment va tomber parce qu'il devient trop sec. Et tant que le sarment est uni au cep, il y a toujours un espoir de revitaliser ce sarment. Déboucher le canal qui amène la sève à l'extrémité du sarment. Mais une fois que le sarment s'est coupé du cep, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'on ne peut plus accéder à la sève qui est nécessaire pour la survie de ce sarment. Ce sont les anges donc, qui recueilleront les sarments et ce sont les anges qui recueilleront les sarments et on le jettera au feu et il brûlera. On avance avec un très beau texte de Saint Augustin, page 37. Plus le bois de la vigne est précieux s'il demeure uni à la vigne, plus il est vil et méprisable s'il vient en être détaché. Il n'y a pour la branche d'autre alternative que d'être uni à la vigne et d'être jeté au feu. C'est-à-dire, si je ne suis pas uni à l'Église catholique, la vigne c'est le symbole de l'Église catholique, si je ne suis pas uni à l'Église catholique par la vertu de charité, le jour de ma mort, je vais avoir les mains vides. Ça va être terrible d'apparaître devant Dieu le jour de sa mort avec les mains vides. C'est là l'évangile de dimanche prochain. J'enregistre ce cours le mercredi 27 août. Et dimanche prochain, donc c'est le 8e dimanche après la Pentecôte. Il y a l'évangile de l'intendant infidèle. Le maître dit à son intendant, j'ai appris toutes les infidélités que vous m'avez volées, vous avez mal utilisé les biens que je vous avais confiés. Rends compte de ta gestion, voyez. Rends compte de ta gestion, c'est ça. Cette phrase terrible qu'on va entendre le jour de notre mort et qu'on réentendra publiquement le jour du jugement général à la fin des temps. Rends compte de ta gestion. Il rends compte de toutes les grâces que tu as reçues, toutes les grâces que je t'ai données, toutes les occasions que je t'ai fournies pour que tu puisses me suivre librement. Rends compte de l'usage que tu as fait de ton intelligence, rends compte de l'usage que tu as fait de ta volonté, rends compte de l'usage que tu as fait de ton irascible, rends compte de l'usage que tu as fait de ton concupiscible. Vous voyez ? Dieu va juger en fonction des grâces reçues. Donc ceux qui ont beaucoup plus reçu seront examinés sur toutes les coutures et Dieu sera beaucoup plus exigeant avec quelqu'un qui a beaucoup reçu. En effet, ce que nous voulons lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ est tout différent de ce que nous voulons lorsque nous sommes encore attachés au monde. Il arrive quelquefois que la partie de nous-mêmes qui demeure encore dans le monde nous suggère des prières, dont nous ne voyons pas l'opposition avec notre salut. Mais loin de nous la pensée que nous obtenions ce que nous demandons si nous demeurons en Jésus-Christ qui n'exauce que les prières qui nous sont utiles. Dieu sait ce qui est utile pour moi. Vous voyez ? Dieu ne va pas répondre de façon aveugle à toutes les prières qu'on lui fait. Il vérifie d'abord que ces prières ont été bien faites. Et surtout, il vérifie qu'elles sont utiles pour nous. Le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le nôtre. Lui, il voit beaucoup plus loin que nous. Et c'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui est au sommet de la montagne, qui a un champ de vision beaucoup plus grand que celui qui est au pied de la montagne, qui ne voit pas grand-chose. D'accord ? Donc, plus on monte vers le soleil, plus on monte vers la lumière, plus on monte vers notre Seigneur Jésus-Christ, plus notre champ de vision spirituelle s'agrandit, et plus nous allons comprendre ce que le bon Dieu attend de nous. Donc Dieu n'exauce que les prières qui nous sont utiles. C'est-à-dire qui sont utiles à notre âme pour que nous sauvions notre âme plus facilement. La prière qui commence par ces mots, « Notre Père, fait partie des paroles de Jésus-Christ dont il est ici question. Prenons donc soin de ne pas nous écarter dans nos demandes des paroles et de l'esprit de cette divine prière, et tout ce que nous demanderons nous sera infailliblement accordé. Lorsque les apôtres ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, apprenez-nous à prier », qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur ? Il leur a enseigné le Notre Père. « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. » Pour ceux qui veulent un peu approfondir l'importance du Notre Père, je vous conseille beaucoup de lire le petit traité de saint Thomas d'Aquin sur le Notre Père, qui est une splendeur. En quelques pages, il va donner le sens caché des demandes du Pater. Et notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, a le droit d'exiger de ses créatures que nous suivions le mode d'emploi qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Mode d'emploi qui est différent pour chacun d'entre nous. Le Christ étant la tête des membres, comme la vigne l'est des sarments, il permet que la vertu coule continuellement sur ceux qui sont justifiés, vertu qui précède toujours les bonnes œuvres, les accompagne et les suit. Car sans elle, les membres ne peuvent d'aucune façon plaire à Dieu et faire quoi que ce soit de méritoire. Nous avons besoin de la grâce sanctifiante pour que nos prières plaisent à Dieu. Qu'est-ce que exige notre Seigneur Jésus-Christ ? Il exige d'abord que ses serviteurs soient en état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, comment voulez-vous que mes prières plaisent à Dieu ? C'est impossible. Cependant, même si je ne suis pas en état de grâce, attention, il faut prier quand même. Souvent, on entend les fidèles nous dire, monsieur l'abbé, j'ai commis un faute grave, alors j'ai arrêté de prier toute cette semaine, parce que je ne pouvais pas me confesser tout de suite. Donc, j'ai dû attendre une semaine à tel péché mortel, alors j'ai arrêté de prier, parce que je suis indigne de prier lorsque je suis en état de péché mortel. Eh bien, c'est faux. Bien sûr, nous sommes indignes de prier, mais Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin. Et c'est surtout lorsque nous sommes en mauvais état, c'est surtout lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dépendants de Dieu, lorsque nous sommes en état de péché mortel, qu'il faut prier pour que Dieu ait pitié de nous. Beaucoup des grâces que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous, encore une fois, sont des grâces conditionnelles, mes bien chers frères. Et donc, surtout dans les périodes difficiles, les périodes de désolation, les périodes de découragement, les périodes de péché même, il faut prier. Et il est plus facile de prier avec humilité quand on est à un tas de péchés mortels que quand on n'a pas de problème, pas de tentation du tout. Rien de plus n'est demandé pour ceux qui sont ainsi justifiés par ces œuvres faites en Dieu et satisfont pleinement la loi divine selon leurs conditions en cette vie. Ils ont mérité d'atteindre la vie éternelle en son temps s'ils ont quitté ce monde en état de grâce. Il faut bien comprendre ça, que si je meurs en état de grâce, Dieu est en quelque sorte obligé de me mettre au paradis. Après un temps purgatoire, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il l'a promis. Il l'a promis, l'Église a toujours enseigné qu'une personne qui meurt en état de grâce va au ciel. L'état de grâce, c'est déjà le paradis qui commence à exister dans notre âme. De même que Dieu ne peut pas se contredire lui-même et ne peut pas permettre qu'une âme qui meurt, une âme qui passe de l'autre côté en état de péché mortel, puisse aller au ciel, c'est impossible. Dieu peut donner des grâces pour qu'une âme en état de péché mortel, ici-bas sur la terre, change et retrouve l'état de grâce pour une bonne confession. Mais une fois qu'on est mort, on n'est plus dans le temps, mes bien chers frères. On est dans l'éternité. Qui dit éternité, dit absence de temps. Étant plus dans le temps, à ce moment-là, il y a plus de possibilité pour nous de changer. Rappelez-vous ce qui est cette phrase des pères, il n'y a pour la branche d'autre alternative que d'être uni à la vigne ou d'être jeté dans le feu. La première alternative, c'est d'être uni à la vigne par la grâce sanctifiante, par la vertu de charité. Deuxième alternative, j'ai été coupé de la vigne, coupé du cep, coupé de l'accès de la sève dans ma branche, et donc il n'y a plus qu'une seule chose pour moi, être jeté au feu. Une branche qui est coupée du cep, qui ne reçoit pas la sève de la grâce sanctifiante, ne peut porter du fruit. Et donc, ne va même pas être conservé sur l'arbre. Dieu ne garde pas sur le cep des serments inutiles. Donc, quelqu'un qui quitte ce monde en état de grâce a un droit stricte au ciel, parce que Dieu l'a promis. Autre phrase des pères, cette coopération de la volonté libre est aussi une grâce. Car sans être prévenu, élevé et poussé à la coopération à la grâce, sans une grâce coopérative et auxiliaire, cette volonté ne pourrait coopérer ni faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, les grâces sont coopérantes. Les grâces aident la volonté de l'homme à se soumettre à la volonté divine. Donc ce qu'on appelle des grâces prévenantes. Est-ce que je peux me soumettre à la volonté divine sans une grâce particulière du bon Dieu? La réponse est non. J'ai besoin donc de ces grâces prévenantes, de ces grâces coopérantes pour accepter de me soumettre à la volonté du bon Dieu. Sinon, je tombe dans l'orgueil. Oui. Et on le voit très bien dans le monde moderne, dès que les gens ont perdu la grâce sanctifiante, ben tout part dans tous les sens parce qu'il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Vous savez, là, rappelez-vous ce que disait Saint Curé d'Ars, c'est une paroisse quelques années sans prêtre, on y adorera les bêtes ici. Je l'ai vu là, il y a quelques jours, on a eu le week-end du 22, 23, 24 août, nous avons eu, le 22, 23, 24 juillet, nous avons eu la fête du village. Il y a 500, 600 personnes qui viennent à Padiès pour cette fête du village qui commence le vendredi soir. Et dès le vendredi soir, déjà, les jeunes qui n'habitent plus au village depuis des années, quand même jamais, sans doute jamais vécu au village, mais leurs arrière grands-parents sont du village, alors ils viennent à la fête. Bon. Et c'est des fêtes purement mondaines. On sent la présence du démon dans ces fêtes, c'est épouvantable. Dès le vendredi soir, la plupart des jeunes sont déjà ivres, mais complètement ivres, mais ivres à vomir, à être malades. Et une fois, j'en ai parlé au maire, ancien maire, que je connaissais un peu, et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez une buvette où vous vendez de l'alcool? Il m'a répondu, de toute façon, qu'on vende de l'alcool ou non, ça ne change rien du tout, parce que les jeunes arrivent avec les coffres pleins de bière. Et dès qu'ils arrivent, ils ouvrent les canettes et ils s'enivrent. Quant aux filles, ça c'est pour les garçons, les filles, n'en parlons pas, elles sont toutes habillées à peu de choses près comme des prostituées en chasse. C'est là où on voit dans quel trouble, dans quelle horreur morale tombe l'homme qui se coupe de la grâce du bon Dieu. C'est le sarment qui n'a plus de sève. On peut donner comme exemple ce qui se passe actuellement dans l'église d'Allemagne, dans l'église de Vatican II, dans les évêques allemands commencent déjà à demander la dépénalisation de l'avortement et de l'homosexualité. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Deux péchés qui sont classés par l'Église dans le groupe des péchés qui crient vengeance contre le ciel. L'homosexualité, la sodomie donc, et l'avortement, le meurtre de l'innocent, l'infanticide. Eh bien, l'Église d'Allemagne, l'Église de Vatican II, n'a fait rien d'autre que de demander la dépénalisation de ces péchés contre nature. Vous voyez, où on en arrive dès que notre Seigneur Jésus-Christ part. Quand notre Seigneur Jésus-Christ part, la nature saute littéralement, on tombe dans la contre-nature tout de suite. Oui. Quelqu'un, quiconque donc, prétendrait que nous pourrions penser ou choisir quelque chose de bon, regardant notre salut par la seule force de notre nature, ou croire à l'évangile, prêcher sans l'illumination ou l'inspiration du Saint-Esprit, serait trompé par l'esprit d'hérésie, ne comprenant pas la voix de Dieu dans l'évangile qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette phrase est au verset 5 du chapitre 5. « Je suis la vigne, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il faut comprendre ça. C'est Dieu qui nous donne l'être et qui nous maintient dans l'être. Et donc, pour faire quelque chose de bon, ce que disent ici les pères, loin de nous de prétendre que nous pourrions même penser, choisir quelque chose de bon regardant notre salut par la seule force de notre nature. Nous ne pouvons pas, car si Dieu n'est pas en nous, eh bien, nous retrouvons tout seuls. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec lui, avec la grâce du bon Dieu, tout est possible. Même des retours à la grâce de gens qui ont vécu dans le péché mortel pendant des années et des années. Relisez cette phrase. Quiconque prétendrait que nous pourrions penser ou choisir quelque chose de bon en gardant notre salut par la seule force de notre nature, ou croire à l'évangile prêché sans l'illumination ou l'inspiration du Saint-Esprit, serait trompé par l'esprit d'hérésie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on ne peut pas même conserver la foi sans la grâce du bon Dieu. On ne peut pas regretter son péché mortel après un péché mortel sans la grâce du bon Dieu. On ne peut pas désirer la confession pour des motifs purement naturels. Il faut la grâce du bon Dieu, au moins pour avoir un acte de contrition. Contrition imparfaite. N'oublions pas que même pour obtenir un acte de contrition imparfaite, c'est-à-dire regretter ses péchés par crainte de l'enfer, il faut déjà une grâce du bon Dieu. Sans cette grâce du bon Dieu, on s'écroule complètement. Vous êtes les serments, nous dit notre Seigneur. Comme les serments avec le cèpe, nous sommes unis et adhérons au Christ, spirituellement par la foi, par l'espérance, par la charité, mais aussi corporellement, car la vigne est l'humanité du Christ, dont nous sommes les branches à cause de l'identité de la nature humaine, surtout dans la Sainte Eucharistie, dans laquelle nous sommes unis et mélangés avec le Christ, non seulement comme les branches à la vigne, mais comme la cire fondue mélangée avec une autre cire fondue. Vous voyez tous ces exemples qui nous aident à comprendre le mystère de la Sainte Eucharistie. Si le bon Dieu a voulu prendre, comme encore une fois, comme matière du sacrement de la Sainte Eucharistie, le pain et le vin, c'est pas pour rien. Est-ce que le pain provient des grains de blé qui sont broyés et mélangés ensemble pour former une seule pâte qui est cuite rapidement au feu pour donner la substance du pain de levain, qui va ensuite être transformé en substance du corps du Christ. De la même façon, dans le calice, le vin qui est versé dans le calice provient du broyage des grains de raisin qui vont être fermentés et former un seul liquide. Et c'est ce liquide, la substance du vin, qui va être transformé par la force du sacrement, la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La petite goutte d'eau qui est rajoutée à la fin de l'offertoire, c'est que le prêtre va rajouter une petite goutte d'eau, représente justement l'union des fidèles dans l'Église au sacrifice du Christ. Je vous relis ces magnifiques prières de l'offertoire de la messe catholique. Le Suscipe Sancte Pater, surtout les Deus Comane Substantiae, qui sont les prières qui sont dites par le prêtre au début de l'offertoire. Recevez, ô Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel, cette hostie sans tâche que je vous offre, moi, votre indigne serviteur, à vous qui êtes mon Dieu vivant et véritable, pour mes péchés, mes offenses et mes négligences sans nombre. Pour tous ceux qui sont ici présents, pour tous les chrétiens vivants et morts, afin qu'elles servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Ainsi soit-il. Ô Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et qui d'une manière plus admirable encore l'avait rétablie dans sa dignité première, accordez-nous par le mélange symbolique de cette eau et de ce vin d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné s'unir à notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui est en Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut, en suppliant votre bonté de le faire monter comme un parfum suave en présence de votre divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Dans un esprit d'humilité et le cœur contrit, puissions-nous, Seigneur, être accueillis par vous et notre sacrifice s'accomplir aujourd'hui en votre présence de manière à vous plaire, ô Seigneur notre Dieu. Venez, sanctificateur, tout-puissant, Dieu éternel, et bénissez ce sacrifice préparé à la gloire de votre saint nom. Il faut méditer sur ces magnifiques prières. Magnifiques prières de l'offertoire. Et on finit avec la prière à la Sainte Trinité. Recevez, ô Trinité Sainte, cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la Passion, de la Résurrection, de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et en l'honneur de la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, du Bienheureux Jean-Baptiste et des saints apôtres Pierre et Paul, de ceux dont les reliques sont ici, de tous les saints, afin qu'elles les honorent et servent à notre salut, et que ceux dont nous honorons la mémoire sur la terre daignent intercéder pour nous dans le ciel par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, et que le Seigneur reçoive ce sacrifice par vos mains, par nos mains, pour l'honneur et la gloire de son nom, pour notre utilité et celle de toute la Sainte Église, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Il faut vraiment relire ces magnifiques prières, mes bien chers frères, ces magnifiques prières de l'offertoire. Nous avançons avec les versets 8 à 11 du chapitre 15. En bas de la page 37. En ceci, mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, que vous deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé moi-même les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. En voyant les commentaires des pères sur ce passage, encore une fois, on voit le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui se dilate pour pouvoir faire passer plus de grâce depuis son sacré cœur dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on voit l'application de cette magnifique formule qui est dans les litanies du sacré cœur. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. La joie que Jésus avait à notre sujet était déjà parfaite quand il nous prédestinait dans sa préscience divine. Mais cette joie n'était pas encore à nous parce que nous n'existions pas encore. Elle a été en nous lorsqu'il nous a appelés à la foi. Et nous disons à juste titre que cette joie est notre joie puisque c'est elle qui doit faire un jour notre félicité. Elle commence avec la foi qui nous régénère. Elle sera pleine et parfaite avec les résurrections qui sera notre récompense. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il faut vivre dans cette joie d'action de grâce. Pensons à remercier le bon Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous envoie. Et même remercier le bon Dieu pour les difficultés qui arrivent. Vous voyez, c'est ça qui me frappe le plus dans le monde moderne. Je vous l'ai déjà dit, la tristesse du monde moderne. Mais en fait aussi le fait que le monde moderne se plaint tout le temps. Vous voyez, je vous donne un exemple personnel, je m'excuse de parler de moi, mais c'est pour vous aider à comprendre. Donc je me suis cassé au mois de décembre 2021, cassé net, descendant un escalier, je me suis cassé le tendon quadricipital qui unit le quadriceps de la jambe de la cuisse, donc, à la rotule. Bon, l'opération s'est pas très bien passée. Eh bien, je suis pas très content parce qu'il y a des tas de choses que je peux plus faire. Aujourd'hui, j'ai pris une demi-journée de vacances. Bon, et je voulais la refaire une via ferrata que j'ai faite je sais pas combien de fois, une via ferrata du Beaufy, près de Millau, qui n'est pas difficile du tout. Je la faisais avant pratiquement en courant cette voie. Je mettais à peine ma main sur les câbles et puis je courais le long de la voie, je la faisais. Vraiment, une demi-heure, trois quarts d'heure, elle était faite. Et j'ai voulu la refaire. Seulement maintenant, j'ai un genou en mauvais état. Eh bien, j'ai dû arrêter ma voie ferrata au bout de 200 mètres de câble parce que j'avais complètement oublié que dans cette via ferrata, il faut faire des petits sauts pour passer d'une prise de pied à une autre prise de pied. Des plus petites plaques pour mettre les pieds, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une via ferrata, c'est une progression sur le rocher protégé par un câble. Il y a des petites plaques pour soutenir le pied, mais sur cette plaque, je peux mettre qu'un seul pied. Donc pour pouvoir passer, il faut sauter et faire sauter le pied droit et mettre le pied gauche à la place du pied droit. Or, avec mon genou, je ne peux plus sauter. Et donc, en arrivant dans cette longue traversée, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la passer comme je la passais avant, parce que mon genou était en mauvais état, que je ne pouvais plus sauter, donc je ne pouvais pas passer ce passage normalement. Alors, j'aurais pu le passer en passant deux minutes par plaque pour essayer de trouver un petit peu de place pour mettre le bout de mon pied gauche à côté de mon pied droit et passer. Eh bien, j'ai dû faire demi-tour, j'étais bien humilié, j'ai dû faire demi-tour. Et rentrer à la voiture au parking. Mais vous voyez, j'ai pensé après, bon, j'étais pas content, j'étais humilié de ne pas pouvoir faire cette via ferrata. J'aurais même détendu un petit peu musculairement, mais j'ai pas pu. C'est bon Dieu sait ce qu'il fait. Mais vous voyez,
Au lieu de, il y a deux solutions. Au lieu de, première solution, dans un cas comme ça, on râle à cause des choses qui ne vont pas. Je ne peux plus monter un escalier normalement. Je ne peux plus descendre un escalier normalement. Je ne peux plus sauter. Je ne peux plus monter sur une chaise sans manquer de me casser la figure. Je ne peux plus descendre un sentier de montagne sans manquer de piquer dans le précipice à chaque mètre. Ah mon Dieu, quel dommage que j'ai pu ça. Et puis je me dis, mais au lieu de râler, je ferais mieux de remercier le bon Dieu. Merci mon Dieu, parce que je peux encore marcher. Je suis tombé dans l'escalier du grenier, qui montait au grenier. Je descendais quelque chose du grenier chez moi. Je suis tombé, il ne restait plus que 3 marches. Mais il y avait une vingtaine de marches au-dessus du grenier, au-dessus des 3 dernières marches. Si j'étais tombé au début de cet escalier, j'allais faire rouler boulet, et j'allais m'écraser contre le mur qui était au bas de l'escalier. Et là, je pouvais me tuer, je pouvais me fracturer la colonne vertébrale, je pouvais me casser je ne sais pas combien d'os. Eh bien, je ne me suis rien cassé, je me suis cassé que le tendon, c'est tout. Et grâce à Dieu, je peux toujours conduire, donc je peux toujours faire mon apostolat. Je peux toujours dire la messe, célébrer la messe, même si j'ai bien du mal avec mes genouflexions, comme vous avez pu le constater pour ceux qui regardent la messe sur la vidéo. Eh bien, il faut remercier le bon Dieu. Je me suis dit, au lieu de râler, remercions le bon Dieu. Merci mon Dieu parce que je peux encore conduire. Merci mon Dieu parce que je peux encore marcher. Même si j'ai du mal, je peux encore marcher, je peux encore faire un peu de dénivelé en montagne pour me détendre un peu, même si j'ai mal fou à redescendre après. Bon, il faudra un hélicoptère pour me ramener en bas après le dénivelé. Remercions le bon Dieu. Je pense à tous ces gens modernes qui sont toujours en train de râler pour les choses qui ne vont pas et qui ne pensent jamais à remercier le bon Dieu pour ce qui va. Remercions le bon Dieu qui nous a bien dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc la joie, donc méditer ces dernières paroles de la page 37. Hein. La joie qu'il avait à notre sujet était déjà parfaite. Elle a été en nous. Elle commence avec la foi qui nous régénère et elle sera pleine et parfaite avec la résurrection qui sera notre récompense. Donc gardez le regard vers le sommet du calvaire. Bien sûr, le sommet du calvaire, c'est la tristesse de la croix. Mais derrière la tristesse de la croix, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la joie de la résurrection. Vous voyez ? Donc il ne faut pas oublier tout ça. Donc cette joie commence avec la foi qui nous régénère. Elle sera pleine et parfaite avec la résurrection qui sera notre récompense. La prédestination du Christ, son élection, son amour et sa grâce sont les moyens, la fin, l'exemple de notre prédestination, élection, amour et grâce. Le Christ apporte à ses disciples une double joie comme récompense. La première joie est la sienne, la seconde celle de ses disciples. Nous allons nous réjouir dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous disais dit ces choses afin qu'en les accomplissant, vous me donniez de la joie. Car parents et maîtres se réjouissent quand ils voient leurs enfants et élèves agir doucement, droitement, en obéissance à leurs commandes. La seule façon d'être heureux, c'est de pouvoir dire à notre Seigneur Jésus-Christ, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. » Dès que j'en fais qu'à ma tête, on trouve le malheur. « Que ma joie soit en vous. Que je me réjouisse de votre conformité à ma volonté. De même que la vigne se réjouirait si elle se pouvait, parce que ses sarments lui sont unis et portent du fruit. Ainsi, les sarments de leur côté se réjouissent parce qu'ils adhèrent à la vigne et que la sève passe par eux aux grappes. » Et on voit ainsi le bon Dieu qui utilise comme des instruments pour que sa grâce passe par nous pour aller aux âmes. Le prêtre est un autre Christ, mais c'est un aqueduc en quelque sorte. L'eau de la grâce passe par cet aqueduc pour venir de la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ à la ville qui représente l'église militante. Ô mes disciples, demeurez en moi, la vraie vigne, par amour, et j'habiterai en vous par l'influx continuel de l'Esprit de grâce pour que vous fassiez de bonnes œuvres. Là, il y a encore une faute d'orthographe. Je me réjouirai alors en vous parce que vous êtes attachés à moi et vous aurez cette joie en moi parce que la grâce et le Saint-Esprit dérivent de moi pour la conversion de toutes les nations. Cette joie sera graduellement complète et n'aura sa parfaite consommation que dans la gloire éternelle. Donc il est absolument indispensable, mes bien chers amis et mes bien chers frères, que nous ayons cette joie malgré les croix, malgré les difficultés. Le bon Dieu n'a pas promis que notre vie ici-bas serait un long fleuve tranquille. Il nous a promis une arrivée en douceur. C'est tout, mais la traversée de la mer est peut-être assez dangereuse avec les pirates, les tempêtes, les requins et les agressifs qui sont cachés sous les flots, etc. Donc ne pas se décourager, avoir cette joie. Encore une fois, n'ayez pas cette tristesse. On entend beaucoup trop de catholiques de tradition se plaindre des choses qui ne vont pas. Est-ce que vous avez pensé à remercier le bon Dieu pour toutes les grâces qu'il vous a données, toutes les grâces que vous avez reçues de lui? Tous les jours, il vous donne des grâces. Que vous remerciez. Quand est-ce la dernière fois que vous avez remercié le bon Dieu pour la grâce du baptême? Vous pouvez être un païen. Vous pouvez n'avoir jamais entendu parler du bon Dieu. Pensez aux enfants des âmes, les enfants qui sont morts sans baptême, qui n'entendront jamais parler du bon Dieu. Nous, on sait qu'il est là. Donc, ayons cette joie. Le premier signe de la présence de Dieu dans une âme, c'est la joie. Rappelez-vous les signes. Saint Ignace explique bien tout cela dans les règles de discernement des esprits. La joie, la paix, la lumière, l'attraction vers le beau, le goût du silence. Voilà ce qu'il faut demander au bon Dieu. Voilà, nous allons terminer ici et je continuerai ce chapitre 15 que je devrais terminer avec la prochaine conférence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.